actuelle l'histoire de mai 68, au point où les deux sont en quelque sorte fusionnés, alors qu'il y a des destins tout à fait distincts. Ceci dit, quand on parle de 68, il faut voir que dans le grand retournement, dans la grande méprise qui s'est produite, il y a aussi un fait qui est important, c'est que le grand retournement ou la méprise n'était pas absolument invraisemblable, parce que dans mai 68, il y avait un certain nombre d'éléments, l'anti-étatisme par exemple, la liberté des mœurs, l'égalité homme-femme, qui étaient tout à fait récupérables par le système capitaliste. Bon, il est évident que c'est des bonnes choses, c'est des acquis et personne n'en discutera, mais le droit au divorce, le droit à la pilule, le droit à l'avortement, l'égalité des homosexuels, une femme secrétaire d'État, demain un président noir, président des États-Unis peut-être, tout ça est à la fois bien en soi et tout à fait compatible avec l'ordre économique capitaliste. Donc, plus on mettait l'accent sur ces transformations au plan de la société, plus on faisait de mai 68 un mouvement qui était récupérable et qui n'avait plus nécessairement de dimension révolutionnaire et subversive de l'ordre social. Or, on le sait bien, à mesure qu'on s'est éloigné de mai 68, le souvenir de plus en plus récurrent de ces événements, surtout pour ceux qui ne l'avaient pas vécu, c'est la révolte étudiante. C'est les barricades au quartier latin. Alors je pense qu'avec ce 40e anniversaire, c'est en train de changer un peu, qu'avec le 40e anniversaire, on a évoqué davantage que lors du 30e ou du 20e, par exemple, les grèves ouvrières. Mais pendant très longtemps, la dimension qui avait été en quelque sorte mise en exergue était la dimension qui était la plus associée à ceux qui parlaient de mai 68 et qui n'avaient pas d'expérience ouvrière à communiquer, mais qui avaient des expériences ou des émois d'étudiants qu'ils pouvaient nous relater.
Comment le bouquin de Ken Game a été reçu à l'époque, vous savez ?
Bah, y a cette émission de Bernard Pivot où on voit Guy Hockenheim affronter Serge Julie très violemment. Je crois qu'à l'époque, quand on lisait ce livre, enfin, en tout cas quand on avait ma disposition, on se sentait vraiment libéré, on se disait enfin. Il faut imaginer encore une fois à quel point ces années 80 et la période 84, 86, 88 étaient étouffantes dans la mesure où les seuls discours autorisés étaient les discours tenu par les cibles de Hockenheim, qui avait complètement transformé à la fois la réalité sociale et une partie de l'histoire de France. Donc vous aviez ce militant, ce journaliste, et qui a une plume, il n'y a pas le moindre doute sur le fait qu'il a une plume, qui nous vengeait de ces anciens révolutionnaires devenus des notables du régime mitterrandiste ou bien des serviteurs de la droite. Parce qu'il faut se rappeler qu'un certain nombre des personnages de mai 68 sont devenus, dès les années 70-80, des riganiens. C'était les mêmes qui approuvaient les guerres de Reagan en Amérique centrale, Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, les expéditions à Grenade, au Panama, la guerre des contrats,
le
Tchad, etc., en Afrique. Bon. Donc on a des gens qui en 1968 étaient plus ou moins anticapitalistes et qui estimaient que maintenant la révolution c'était le capitalisme, qui étaient anti-impérialistes et qui devenaient les aides de camp du régime américain et du régime de Reagan. C'était tout de même une espèce de travestissement de l'histoire et de la réalité de 68 qui était épouvantable. Donc entendre Guy Hockenheim exprimer son aversion et avec quelle fougue dans ce livre-là, c'était pour beaucoup de lecteurs une espèce de libération. On se disait enfin, ça fait du bien. Et à l'époque, il y avait très peu d'ouvrages qui étaient dans ce registre. Il y a un autre livre qui s'appelait La deuxième droite de Jeanne Auvert et de Garnier, qui était aussi un livre assez enflammé contre les renégats de 68, mais le livre d'Hockenheim était presque seul en son genre.
Génération. Pendant des années, je m'étais juré à moi-même de ne pas prononcer ce mot. Il me répugne d'instinct. Je n'aime pas l'idée d'appartenir à ce bloc coagulé de déception et de copinage qui ne se réalise et ne se ressent comme tel qu'au moment de la massive trahison de l'âge mûr. On ne devient génération que lorsqu'on se rétracte, comme l'escargot dans sa coquille, le repenti dans sa cellule. L'échec d'un rêve, la strate des rancœurs, le précipité qui retombe d'un soulèvement ancien se nomme génération. Celle qui, aujourd'hui, va de la trentaine attardée à la cinquantaine précoce, s'est déposée, comme le sel amer de la désillusion. Il faut bien